10h25 minutes dans le point de Max à Boulevard 102.1. Merci d'être là. Vous avez été plusieurs à texter au 418-971-1021 pour les pour réagir là, aux dernières nouvelles, et vous continuez de le faire, n'hésitez pas. Je prends toujours le temps de vous lire. On va jaser sortie cinéma, sortie Netflix avec Eric de Pop Culture Québec, que vous pouvez suivre là, du côté d'Instagram, de TikTok aussi. Je sais qu'il est bien suivi sur TikTok. Eric, ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Yes, merci beaucoup. T'avais une petite soirée cinéma hier?
Oui, j'allais voir Black Phone 2, un film d'horreur bien attendu de cet automne. Puis j'ai pas été déçu. Écoute, le premier m'avait laissé un peu sur ma faim. Je trouvais qu'on allait pas assez dans l'horreur, qu'on allait plus dans l'ambiance. C'était quand même un bon film, il y a pire, mais le Black Phone 2 pousse ça à un autre niveau. Pour faire un petit résumé, le personnage de Black Phone 1, le méchant, meurt, puis il revient dans le deuxième, un peu comme pour traumatiser les enfants qui sont les personnages principaux du premier. Mais ils réussissent à faire réapparaître le méchant dans une dynamique qui est intéressante. Ça veut dire dans les rêves, dans le paranormal. Donc, il y a une fille qui vit. Elle peut voir un peu des visions, puis elle voit ce méchant-là des visions. Puis c'est un peu un hommage à Nightmare of Elm Street avec Freddy Krueger. Le méchant peut attaquer les gens dans les rêves, mais ça se transmet aussi dans la réalité.
Okay.
Donc personne n'est vraiment à l'abri. Puis la dynamique, le montage, comment l'image apparaît à l'écran, les jumpscares qu'on appelle. J'ai fait un solide jumpscares. J'ai peut-être même un peu crié sans m'en rendre compte. C'est vraiment... un film, je pense, à ne pas manquer. Pour ma part, c'est un 4 sur 5. Là. C'est un solide film. Quand tu mets au premier, qui était plus un 3, un film correct, c'est ma surprise au niveau d'horreur cet automne.
OK. The Black Phone 2, donc, sur, au cinéma pour l'instant. On va rester dans l'horreur tant qu'à y être. La série Ed Gein sur Netflix qui fait beaucoup jaser. Puis oui, c'est de l'horreur. Là, je veux dire, on se base sur une histoire véridique, puis on nous raconte ça. Le chum Marceau là, du matin qui nous en a parlé régulièrement dans les derniers jours. C'est un gigantesque succès.
Oui, tout à fait. La série Monster qui dure depuis 3 ans maintenant. On a eu Dahmer, on a eu les frères Menendez maintenant de ça. J'ai aimé aussi la série, mais il y a quand même beaucoup de choses à noter qui sont peut-être négatives.
Okay.
C'est dramatisé beaucoup ces séries-là de Ryan Murphy, qui est le réalisateur, pour ajouter justement un peu de sensationnalisme et rendre le récit intéressant. Dans les faits, moi, je suis allé lire sur Ed Gein après avoir vu la série. Puis en réalité, on ne sait pas grand-chose de sa vie. Donc, ça fait en sorte que pour créer une série de 8 épisodes...
Il a fallu en inventer pas mal.
Il a fallu boucher des trous avec des faits qui sont semi-véridiques, des semi-vérités. Mais admettons qu'on rentre là-dedans en connaissance de cause, puis qu'on oublie ce fait-là, que ça ne nous dérange pas, ça reste une bonne série qui est prenante, qui est... Il faut s'attendre que ce soit dégueu vu les circonstances... quelques scènes qui m'ont un peu fait. Surtout l'épisode 6 où ils découvrent la maison et toutes les horreurs qu'ils trouvent dans la demeure de Gein. C'est assez spécial. Puis c'est des choses qu'on voit pas. Heureusement aujourd'hui, à l'époque, c'était. Je veux dire, les policiers n'étaient pas formés pour ça non plus. Il n'y avait pas les indices par rapport aux meurtriers à cette époque-là. Pour ma part, c'est une très bonne série. C'est sûr que c'est long. 8 épisodes d'une heure avec des faits qui sont pas toujours comme accurate. Les 2 derniers épisodes, pour ma part, j'aurais pu les laisser tomber puis ça n'aurait rien changé.
Okay.
Donc, mais ça reste à écouter, à découvrir là, si vous aimez le style horreur puis un peu comme des histoires vraies. Là.
L'Halloween qui s'en vient, puis ça va fitter avec la sortie du film Frankenstein autant au cinéma que sur Netflix. On le sort un petit peu avant au cinéma.
C'est ça. Là. Ça, c'est un film que j'étais allé voir au Festival du Nouveau Cinéma à Montréal. Ils passent des films populaires pour un peu créer un genre de hype, mais c'est pas sorti. C'est sorti dans quelques cinémas qui sont plus à Montréal. Ça sort sur Netflix à tout le monde le 5 novembre. Frankenstein est un film super attendu. Pour ma part, c'est le meilleur film que j'ai vu sur Netflix depuis que j'ai Netflix,
ah,
depuis 2016.
Là. À ce point-là.
À ce point-là.
Ben, j'avais vu la bande-annonce il y a un bout de temps déjà. Puis en effet, ça semblait solide, mais je me demandais à quel point ça allait dans les faits l'être. Là.
Oui, c'est inhabituel pour Netflix de sortir des films qui feel de qualité. Je veux dire, il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de choses qui sortent sur Netflix. Mais c'est toujours bon, mais pas excellent.
Mm-hmm.
Là, on tombe dans l'excellent, on tombe dans les Oscars, on tombe vraiment dans quelque chose qui pourrait faire une certaine renommée. Puis juste avoir les acteurs principaux, t'as Oscar Isaac, qui a joué dans Dune, notamment, qui a joué dans la série Moon Knight sur Disney+. Puis t'as Jacob Elordi qui est connu pour surtout la série Euphoria, qui sont deux acteurs qui sont en pleine ascension présentement.
C'est quoi l'histoire qu'on suit dans le film?
C'est un peu classique Frankenstein, mais c'est plus que un savant fou crée Frankenstein puis il sème la pagaille. C'est beaucoup plus deep que ça. C'est Oscar Isaac qui est le scientifique. Frankenstein en tant que tel, c'est le nom du scientifique. Ouais. Puis il veut créer la vie, etc. Fait qu'on suit peut-être dans la première heure, dans son périple pour créer la vie à quelque chose qui est inhumain. Il va chercher des corps, etc. Il va raconter ça de gauche puis à droite. Puis la deuxième partie, il crée le monstre, en fait.
Okay.
Puis le monstre se rend compte que il vit des émotions qu'il n'était pas censé vivre. Puis c'est là que le film est intéressant, parce que c'est plus qu'un film d'horreur. C'est un film plus qui va chercher la dimension humaine. Qu'est-ce que la vie en général? Mm-hmm. Ça va vraiment toucher des thèmes qui sont profonds, qu'on ne s'attend pas à un film de Frankenstein.
Tron Ares au cinéma, ça vaut-tu la peine? On a beaucoup entendu parler. Est-ce que les gens devraient se déplacer?
Pour ma part, c'est ma plus grosse déception de l'automne. Là. J'étais un gros fan de Tron en tant que tel. J'ai vraiment aimé celui d'il y a 15 ans, en 2010, Tron Legacy. Mais Tron Ares, c'est un très beau film là, au niveau de la... Mettons de l'image, le néon, au niveau de la bande sonore, Nine Inch Nails, qui est un band de métal industriel, mais qui a une bande sonore électro mm-hmm. pour ce film-là, qui est vraiment solide au cinéma, quand on entend les basses, etc., ça résonne beaucoup. Mais l'histoire en tant que telle, premièrement, avoir casté Jared Leto, c'est un choix qui est un peu, douteux, parce que l'histoire nous prouve, il y a des allégations contre lui, premièrement, puis il y a aussi le fait que c'est pas vraiment un acteur qui est reconnu pour des bonnes performances. On regarde les derniers films qu'il a fait comme Morbius ou La Maison Gucci, qui sont deux films qui ont excessivement floppé. Donc le prendre comme un rôle principal, ça attire personne au cinéma, premièrement. Puis il donne une performance correcte, là, mais pas comme vraiment comme excellente. Mais pour l'histoire en tant que telle, c'est vraiment l'histoire qui coule le film, il n'y en a pas vraiment. Okay. On ne sait pas pourquoi ce film-là existe en tant que tel. Il aurait pu sortir sur Disney+. Okay. Puis ça aurait été meilleur, mais au cinéma, les performances au box-office nous prouvent que personne ne veut voir ça non plus. Mais les fans de Tron vont peut-être trouver quelque chose qui va leur plaire, parce que cette licence-là est un peu à l'abandon. Maintenant, elle va probablement être enterrée après ce film-là parce qu'ils ne font pas d'argent. Mais je veux dire, pour le casual qui ne connaît pas vraiment Tron, qui va voir ce film-là, il va comme l'oublier aussitôt sorti du cinéma, là, malheureusement.
Eric, je veux qu'on finisse avec ça.
As good as we are in hockey, Montreal is a baseball city.
Et los fanáticos te daban ánimo.
C'était la vie de tous les jours.
The Expos in 94 were the best team in baseball.
C'était complètement fou à Montréal.
Bonsoir!
Non, c'est le plus gros party que tu as vécu, c'était ça.
C'est sûr qu'on n'aurait jamais pensé que cette équipe-là, qu'un jour, on l'aurait perdue.
Why? Why is that team gone? I heard things, but I don't know what's real and what's not real.
So, who killed the Montreal Expos? C'est la semaine prochaine que ça sort ce documentaire Netflix « Qui a tué les Expos de Montréal? »
Je l'ai vu au Festival du Nouveau Cinéma, puis ça m'a ému. C'est un document, moi, pour ma part, comme pour un peu en dire sur moi, j'ai vécu un peu le départ des Expos, mais j'étais au début du primaire, en 2004. Okay. Fait que j'ai pas vraiment d'attachement avec le club, puis je connaissais rien, en fait. À part qu'ils sont partis de Montréal en 2004, quand je suis allé voir ça, ça fesse, honnêtement.
Ah, ouais.
Même si j'avais aucun attachement, les gens ont pleuré, eux qui connaissaient les Expos, dans ma salle. C'était vraiment un excellent documentaire. C'est 100% québécois, premièrement. C'est sur Netflix, ça sort. Une production 100% québécoise faite par Attraction, le studio de prod à Montréal. Puis, comme documentaire, c'est vraiment engageant. Ils sont allés chercher des acteurs... des expos qui sont quand même importants. Claude Brochu, qui était un actionnaire, Pedro Martinez, qui est un joueur, Vladimir Guerrero père. Puis, ils montrent leur point de vue de l'interne. Qu'est-ce qui se passait? C'était quoi les conflits internes avec les actionnaires? C'est surtout une question d'argent, ce documentaire-là, parce qu'au final, le départ des expos, c'est une question d'argent.
On l'a-tu la réponse de qui a tué les expos?
C'est ça qui est intéressant. C'est un peu comme une enquête pendant une heure et demie pour savoir qui a tué les expos, mais au final, on se rend compte que, comme tout départ de club professionnel, c'est un problème multifactoriel.
Mm-hmm.
Il y a beaucoup de... que ce soit au pays du gouvernement qui n'a pas voulu financer un stade qui aurait peut-être sauvé l'équipe, que ce soit les gens qui ne viennent pas à cause qu'ils ont fait une vente de feu pour vendre tous les joueurs. C'est intéressant de voir que c'est surtout des conflits des problèmes de communication qui mènent vers des problèmes d'argent qui ont causé le départ. Puis moi, aujourd'hui, je me suis dit, est-ce qu'on peut avoir une équipe? Est-ce que les Expos vont venir à Montréal dans la situation actuelle? Le documentaire m'a prouvé que c'était pas vraiment possible, malheureusement. Mais je pense que c'est à mettre, que vous soyez fan de sport, de baseball ou pas, je pense que c'est à mettre à votre liste de mardi. Ça va être je pense que ça va faire jaser, puis ça va être un gros succès québécois sur Netflix.
Éric de Pop Culture Québec, allez le suivre sur, sur Instagram, sur TikTok, entre autres. Merci beaucoup, Éric.
Merci à toi.
Au retour de la pause, j'avais hâte d'avoir cette discussion-là. On jase à Charles Fecteau. Il est candidat dans la course à la mairie de Saint-Lambert-de-Lauzon. Là, vous allez me dire, bon, ben moi, j'habite pas à Saint-Lambert-de-Lauzon. Le gars, Charles Fecteau, là, qui est candidat dans la course à la mairie de Saint-Lambert-de-Lauzon, a 18 ans. Et c'est ça que je trouve intéressant. On y jase dans quelques minutes.